marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Les conservateurs, les Britanniques et pas seulement, dans la contradiction.
Nous sommes à Trafalgar Square pour le résultat des élections anglaises. Nous assistons au triomphe des conservateurs. Une fois de plus, les spécialistes se sont trompés, les pronostics se sont révélés faux. Monsieur Macmillan retourne au 10 Downing Street et les conservateurs, avec plus de 14 millions de voix, l'emportent confortablement. Mais qui sont donc ces électeurs conservateurs?
Well, a conservative is one who primarily wants to conserve the good things.
Un conservateur est avant tout quelqu'un qui conserve les bonnes choses et qui cherche à donner le maximum de liberté et d'indépendance aux autres.
1959, il y a 60 ans, il est loin, le temps des triomphes des conservateurs britanniques qui aimaient se présenter comme le parti naturel du gouvernement. Certes, il ne faut pas tirer trop de leçons rationnelles du scrutin européen au Royaume-Uni. Il a été, à la lettre, extravagant. Néanmoins, les conservateurs doivent admettre qu'ils ont essuyé une déroute, tandis que le parti du Brexit, réactionnaire au sens premier du mot, a attiré le tiers des votants. Les conservateurs sentent la menace sur leur nuque. L'extrême droite commence à gagner chez les Britanniques comme elle a gagné sur le continent. C'est curieusement ce moment de l'histoire que la droite parlementaire française a choisi pour s'affirmer conservatrice. Le mot est traditionnellement mal porté chez nous. François-Xavier Bellamy et ses partisans avaient clairement choisi de le relever. En se référant sans cesse à un intellectuel anglais old school, Roger Scruton, et en répétant que s'il y a quelque chose à conserver prioritairement, c'est l'héritage chrétien. Ce devait être la remontada, ce fut la débandada. Les conservateurs français ont en effet rejoint les conservateurs britanniques, mais sur le seuil de détresse, 8-9% des suffrages. Les conservateurs français se félicitaient pourtant de la fin de ce qu'ils appellent le sinistrisme. Entendez par là le mouvement de longue durée qui faisait que les nouvelles forces politiques naissant toujours sur la gauche, les anciennes en étaient comme aimantées, on ne pouvait plus se dire de droite. Patrick Buisson, entre autres, a théorisé la nouvelle époque dans laquelle nous serions entrés. Elle serait polarisée par la demande de protection et de sécurité et donc d'extrogir. D'extrogir, mouvement continu vers la droite. Encore faut-il que ce mouvement puisse être arrêté par une force qui protège de l'extrémisme purement réactionnaire. C'est le rôle historique des conservateurs d'incarner cette force. Ils aiment mettre en avant l'idée de responsabilité. La leur est aujourd'hui engagée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Clarisse Berthézen, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Auteur de nombreux travaux sur les conservateurs britanniques, un collectif qui s'appelle Conservatisme en mouvement. Moi, j'ai essayé de faire une comparaison entre la France et le Royaume-Uni, mais ce livre est transnational, publié aux éditions de l'EHESS et un peu avant, aux presses de Sciences Po, le conservatisme dans la bataille des idées, parce qu'on va parler d'idées. Les conservateurs français, puisqu'ils appellent comme ça maintenant, font souvent référence à un Anglais qui s'appelle Burke, Edmund Burke, que Valéry Giscard d'Estaing sur le Tard a découvert. Ces réflexions sur la Révolution française sont intéressantes parce que permettent de distinguer ce qui est réactionnaire et conservateur ou ce qu'il y a de commun entre conservateurs et réactionnaires. Les conservateurs, au départ, au Royaume-Uni, ils n'aiment pas la Révolution française.
Oui, absolument. Alors, Edmund Burke, il devient le père des conservateurs britanniques, en fait, au 19e siècle. C'est vraiment au 19e que les conservateurs s'intéressent à sa pensée, reviennent à ses écrits et le citent beaucoup, et notamment, effectivement, son ouvrage sur la réflexion sur la Révolution française de 1790, hein, qu'il écrit quand même assez tôt, dans lequel il écrit cette phrase célèbre « Un État qui n'a pas les moyens du changement n'a pas les moyens de la conservation ». Et donc, c'est toute cette philosophie du changement qui est perçue comme étant conservatrice et non pas réactionnaire, justement.
Parce qu'il est contre la Révolution française, il a été admirateur de la Révolution américaine.
Américaine, absolument.
Conserver quoi, vous demandez-vous souvent, pas tout.
Non, certainement pas. Et justement, donc la Révolution... Autant la Révolution américaine, il y voit justement les forces de la liberté, de l'indépendance, là dont parlait précisément Macmillan qu'on a entendu là en 59, autant la Révolution française, il y voit essentiellement finalement le succès de théories très abstraites qui mènent à faire couler le sang et à couper les têtes. Et c'est précisément ce qui l'oppose.
Une grande différence entre ceux qui se revendiquent conservateurs en France et les conservateurs britanniques, c'est que les orléanistes qui ont le pouvoir dans les années 1830 refusent, pour la majorité d'entre eux, l'élargissement du suffrage, tandis qu'en 1832, les conservateurs acceptent l'élargissement du suffrage.
Avec difficulté, bien sûr, mais... oui, alors c'est ce même principe là, donc c'est cette marge de manœuvre. Où est le changement, où est la conservation, à quel moment est-ce qu'il faut faire une réforme, comment est-ce qu'on réfléchit à la réforme, et l'élargissement du sens, ça fait partie des réflexions donc du Parti conservateur. Et c'est surtout en 1867, que c'est vraiment Benjamin Disraeli, conservateur, qui donne le droit de vote à la classe ouvrière. Et là, c'est vraiment le saut dans le noir, c'est ce qu'il appelle vraiment the leap in the dark.
Mais et le Reform Act 1832 a eu son importance.
Tout à fait.
George Eliot, la romancière britannique, un petit peu après 1867, décrit la situation en 1832 dans une ville imaginaire des Midlands où une quantité de jeunes frémissent de projets, parmi lesquels Ladislav, qui va s'ériger en coach, mais la situation est un peu difficile pour Monsieur Brooke, qui est le propriétaire le plus antipathique, en fait, de la ville et dont l'intelligence est un peu embrouillée. Et M. Brooke va tenir son premier meeting. Alors,
vous vous rappelez, j'espère, que vous allez devoir exposer votre programme devant une foule d'électeurs la veille des élections et du haut du balcon du Cerf-Blanc.
Naturellement, je trouve le choix de cet établissement des plus heureux. Avez-vous remarqué que devant l'angle qu'il fait, on a la profondeur de deux autres rues devant soi? Il n'en faut pas tant pour rassembler une foule, vous savez.
En avant. Il arrive de plus en plus de monde, vous savez. Je les vois qui sortent des cabarets maintenant. Tous ces gens sont échauffés par les discussions et l'alcool, vous savez. Voyons, passez-moi mes notes.
Mais ne vous y référez pas trop. Rappelez-vous plutôt votre discours.
Voudriez-vous me faire donner un autre verre de sherry, Ladislav?
Mr. Brooke, souvenez-vous que vous êtes un homme tempérant.
Messieurs, électeurs de Middlemarch, je suis extraordinairement heureux de me trouver ici. Je n'ai jamais été si fier et si heureux de ma vie. Jamais si heureux, vous savez.
Bon sang, il patauge déjà.
Les choses doivent aller progressivement. Il nous faut considérer le monde entier. Le trafic, l'industrie, le commerce, le libre-échange, et ainsi de suite. Observer avec des idées larges. On doit tout observer, ce qui se passe partout, de la Chine au Pérou. C'est ce que j'ai fait, jusqu'à un certain point. Non pas jusqu'au Pérou, vous savez.
Catastrophe, une adaptation de Middlemarch pour France Culture en 1976. Bah oui, c'est pas facile de faire face à une foule plus nombreuse que celle du tout petit public de ce qu'on appelait les bourgs pourris, où très peu d'électeurs faisaient la décision. Moi, je croyais que pour être conservateur, il fallait avoir la capacité des traits d'esprit, ce qui manque cruellement à Monsieur Brooke. Vous me direz à Madame May aussi, mais enfin...
Tout à fait, cet extrait est très drôle. John Stuart Mill disait même que le parti conservateur était le parti le plus stupide, à dire vrai. Donc je ne sais pas s'il faut un trait d'esprit, mais enfin, il s'est beaucoup moqué des conservateurs. Mais peut-être juste sur cet extrait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette foule qui c'est exactement ce qui fait peur aux deux partis, mais notamment vraiment aux conservateurs, c'est cette inquiétude justement de la démocratie croissante. Et il y a tout un débat sur la démocratie Tory, la démocratie conservatrice, qui émerge à la fin du 19e, donc un tout petit peu plus tard, enfin, au moment en fait où ce roman est publié, Middlemarch, et cette question de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie Tory, qu'est-ce qu'on considère que cette démocratie va être, comment est-ce qu'on élargit le sens, à qui l'élargit-on, qui en est digne, qui en sera responsable, et puis une fois de plus accroché à cette question, articulé à cette question, celle de savoir ce qu'il faut conserver. Ce que Disraeli posait comme question toujours à ses députés conservateurs.
Conserver, il leur disait, quoi ?
Voilà, que souhaitez-vous conserver ? Qu'est-ce qu'on conserve ?
Bah, il faut du pragmatisme, de l'adaptation. Monsieur Brooke est incapable de se faire élire député, mais un certain nombre de grands propriétaires fonciers font preuve de davantage d'intelligence. Alors, nous sommes maintenant à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e. Enfin, ça dépend quand on fait commencer le 20e siècle. Downton Abbey, la fameuse série qui a tellement plu parce que il y a quand même une nostalgie esthétique d'un monde disparu, celui des grandes propriétés hiérarchisées où chacun a sa place.
Oui, absolument. Il y a une nostalgie à la fois de la communauté rurale, qui est une nostalgie en fait qu'on voit presque dès le début du XXe siècle, parce qu'en réalité, ce dont on se rend pas compte, c'est que plus de 92% de la population habite dans un milieu urbain dès les premières années du XXe siècle. Donc l'Angleterre est un pays très urbain, et donc il y a déjà cette nostalgie à l'époque, et donc encore plus, évidemment, davantage encore aujourd'hui. Mais on le voit très bien dans le début du XXe siècle, et puis ensuite les années 20 et 30, il y a cette inquiétude de la dégradation de la campagne qui va avec justement le déclin de l'aristocratie et le déclin des grandes maisons, et toute une réflexion sur les country house et l'héritage historique, et ce qu'on peut en faire, ce qu'on doit en faire.
L'héritage, il faut le mériter et il faut l'adapter.
Alors, qui vient dîner la semaine prochaine ?
Le voisinage. Comme ça, tu verras Downton un jour de cérémonie.
Nous devons faire tout notre possible pour préserver une maison du rang de Downton.
Si ces grands domaines périclitent, est-ce seulement par manque d'argent ?
Oui, en général. Mais quelle en est la cause ? Trop peu de propriétaires tirent le maximum de leurs terres. Trop peu sont soucieux des revenus. Trop peu sont disposés à changer leur mode de vie.
Vous devez comprendre ce à quoi ces gens sont habitués.
Non, ils doivent comprendre qu'il est temps de s'habituer à autre chose. Ils pensent que rien ne doit changer, que Dieu sera bouleversé si l'ordre ancien est chamboulé.
Et selon vous, il ne risque pas de l'être ?
Non. Exploiter un domaine est un travail difficile, maintenant plus que jamais. Les propriétaires doivent y faire face. Sinon, ils ne méritent pas de garder leurs biens.
C'est une manière de conseiller agricole qui s'exprime, un conseiller en gestion.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avant la Première Guerre mondiale, en effet, il y a toute une attaque contre l'aristocratie, avec pour les droits de succession notamment, pour imposer plus de droits de succession. Cette attaque est menée conjointement par Lloyd George et Churchill, qui à l'époque est un libéral. Et effectivement, l'aristocratie commence à décliner avant la Première Guerre mondiale, non seulement à cause de ses droits de succession, mais elle perd aussi ses droits politiques à la Chambre des Lords. Il y a tout un débat entre 1910 et 1911 à ce sujet. Et donc après la Première Guerre mondiale, et on le voit aussi dans la série Downton Abbey dans les années 20 et 30, on voit très bien ce déclin de l'aristocratie, le côté désargenté de certaines grandes familles et le fait qu'on est obligé d'ouvrir ces maisons, de l'ouvrir au tourisme de masse, je ne sais pas si c'est déjà de masse, mais enfin de grande échelle, et de complètement changer finalement, de maintenir l'objectif de ces grandes maisons, l'héritage, mais du coup en ouvrant les maisons, en faisant autre chose.
L'effroi est caractéristique du parti conservateur. Et alors, après la Première Guerre, voilà que le parti travailliste devient un parti de gouvernement. Que vont-ils faire, les conservateurs, dans la bataille d'idées ?
Oui, et alors là, l'effroi est total. Ça, on le voit déjà depuis la fin du 19e, mais en 18, à partir du moment où le parti travailliste devient clairement le deuxième plus grand parti politique en Grande-Bretagne, l'effroi est effectivement maximal. Le parti conservateur ne cesse de penser, et ça c'est vrai tout le 20e siècle, qu'il va perdre des prochaines élections. Et du coup, dans les années 20, ce qu'on voit, c'est un parti qui s'organise, qui commence à qui mène des études très précises sur les élections. Qui sont-ils ? Qui sont ces ouvriers ? Qui comprend très vite qu'il n'y a pas une classe ouvrière, mais plusieurs classes ouvrières. De même qu'il n'y a pas un vote féminin, mais des votes féminins. Qui s'intéresse, qui cherche à savoir pourquoi, comment les gens votent, selon leurs convictions religieuses, selon leur métier, selon leur région. Donc beaucoup d'études faites là-dessus. Ils créent une école, une université, on peut dire, en 29, qui s'appelle Ashridge College, dans lesquelles, c'est un peu un think tank avant la lettre, dans lesquels ils font venir des historiens pour réfléchir à ce que serait une histoire conservatrice
de
la Grande-Bretagne.
Les conservateurs d'aujourd'hui ont lu votre livre, une presse de Sciences Po là, sur les conservateurs dans la bataille d'idées. Vous en invitez à venir parler.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui qui ressemblerait à l'effort qu'on a fait et qui a été fécond des années 20?
Tout à fait.
30.
Le livre, en fait, il y en a une adaptation en anglais, Training Minds for the War of Ideas, chez Manchester. Et effectivement, j'ai été contactée là plusieurs fois par le Parti conservateur britannique à ce sujet, pour m'interroger sur les think tanks et comment on peut faire.
Et le titre de votre livre sur les femmes de droite, en anglais, bien sûr.
Rethinking Right-Wing Women.
Parce que les conservateurs élargissent le suffrage en 1928. Ils ne sont pas timorés comme les radicaux en France. Et il y a des élus britanniques, des femmes, assez vite, et elles sont généralement conservatrices au Parlement.
Oui, tout à fait. Alors, les conservateurs donnent le droit de vote aux femmes en 1928 par tactique, pas par principe d'égalité du tout, uniquement par souci du bon métier politique et par opportunisme. Mais effectivement, le Parti conservateur est perçu à l'époque comme plus ouvert aux femmes. Il les forme, il leur donne des diplômes à l'intérieur même du parti, dans la hiérarchie du parti. Elles peuvent être rémunérées. Ce qui n'est pas le cas dans le Parti travailliste, et les syndicats travaillistes à l'époque sont quand même assez misogynes. Donc de fait, il y a pas mal de femmes qui s'engagent en politique au sein du Parti conservateur. Et en fait, à partir de 1928, pardon, donc au moment du droit de vote, il y a plus de femmes que d'hommes au sein du Parti conservateur. Il y a plus de militantes
femmes. Il n'y a pas d'équivalence féminisme-émancipation?
Non, alors, elles ne parlent pas d'ailleurs de féminisme, mais elles ont toujours l'impression de défendre ce qu'elles appellent les women's issues, donc justement les questions des femmes, le droit des femmes. Certaines se disent féministes, hein, Lady Astor, par exemple, la première femme au Parlement, justement, qui est une conservatrice, mais la plupart n'utiliseraient pas ce terme, mais elles ont l'impression de défendre mieux, finalement, encore les droits des femmes et paradoxalement de maintenir une hiérarchie tout à fait patriarcale, une maison tout à fait classique, de s'appuyer là-dessus pour au contraire justement faire passer des réformes qui ne pourraient pas passer de manière trop frontale en fait.
Voilà. Personnage assez caractéristique, nous sommes maintenant au début des années 50, elle s'appelle encore Mademoiselle Roberts, elle est présente dans un biopic, elle deviendra plus tard dans le biopic Meryl Streep, et elle est candidate devant un comité conservateur, c'est très important les comités dans les circonscriptions, la circonscription de Darford en l'occurrence, et il y a même des femmes qui l'interrogent.
Ah, Mademoiselle Roberts qui brigue notre investiture pour l'élection au Parlement.
Ah oui?
Mademoiselle Roberts, votre père est-il également un homme engagé?
Tout à fait, il a des convictions. Et il a été maire de Grantham.
Oh. Et il tient une épicerie également?
Oui.
Et est-ce que vous-même, vous aidiez?
Oui, bien sûr.
À la boutique?
C'était une entreprise familiale.
Sans doute un excellent démarrage pour se lancer dans la vie politique.
Ça, assorti d'un diplôme d'Oxford. Ma conviction, monsieur, c'est que l'on doit inciter l'individu à s'en sortir par lui-même. Certes, il faut aider les plus faibles. Bien sûr qu'il faut aider les plus faibles. Mais pour les autres, il n'y a aucune raison. Qu'ils se prennent en charge et qu'ils agissent. Un point, c'est tout. Et si quelque chose ne va pas, qu'ils ne se contentent pas de se plaindre. Qu'ils redressent la tête et retroussent leurs manches pour se battre. Que les choses changent.
Pour votre respect, mademoiselle, ce qui peut avoir fonctionné à Grantham
fonctionnera très bien pour la population de Dartford, c'est sûr.
Vous croyez?
J'en sais bien plus que ceux qui ont toujours vécu avec des revenus confortables. Tout comme n'importe quelle femme ou homme ordinaire. S'il m'arrive d'affronter une fin de mois difficile, je suis obligée d'économiser le mois suivant.
Rien de tel qu'une stratégie fiscalement responsable.
Un homme parle de stratégie fiscalement responsable, là où une femme dirait plutôt bonne gestion du ménage.
Les débuts de Madame Thatcher qui restera sur cette ligne de la responsabilité individuelle, mais qui se distinguera du Parti conservateur qui, au moment de la naissance de l'État-providence, après la Deuxième Guerre mondiale, tenait un langage de consensus, de justice sociale, de cohésion nationale, etc.
Oui, Margaret Thatcher s'en distingue totalement. Elle a beaucoup parlé justement de consensus ou choix, consensus or choice. Elle a écrit plusieurs articles là-dessus et sur l'idée de l'importance justement du choix responsable. Elle a toujours ce langage, elle adapte toujours ce langage un peu domestique, caractéristique justement des femmes conservatrices qui ne sont pas, d'ailleurs elle disait elle-même qu'elle n'était pas féministe, qu'elle n'aimait pas le féminisme, que c'était du poison, mais voilà, mais qu'elle préférait des femmes donc fiscalement responsables et que c'était justement le propre des femmes conservatrices, des femmes de droite, oui.
Elle est encore premier ministre, elle est à peine premier ministre, pardon, que le groupe XTC, vous dites ça comment en anglais ?
Ecstasy.
Fait une chanson où il établit des plans pour Nigel. C'est déjà Nigel Farage, le leader du parti du Brexit.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le conservatisme britannique, le conservatisme français aussi, dans un étau, c'est notre thème aujourd'hui avec Clarisse Berthézen. Donc le parti du Brexit, 33%, les conservateurs de Madame May, 8-9%. Les Lib Dems qui sont partisans du Remain sont à 22%, les travaillistes à 14%. Je voudrais que vous nous parliez d'un parangon du conservatisme qui est très à la mode dans les milieux équivalents en France et qui s'appelle Roger Scruton. Parce que je lis votre conservateur dans La bataille d'idées, je le trouve dans l'index une fois seulement. Et alors dans la presse française, il est partout. Encore 4 pages dans le Figaro magazine de samedi dernier. D'une conversation de Scruton avec Bruno Retailleau.
Oui, c'est assez ironique. Il y a quelque chose vraiment à écrire sur la réception de Scruton en France, assez tardive d'ailleurs, et assez disproportionnée d'une certaine manière avec sa réception en Grande-Bretagne. Il n'est pas particulièrement représentatif. Enfin, s'il l'a été, en tout cas, c'était plutôt dans les années 80. Mais enfin, aujourd'hui, il ne l'est plus du tout. Ses positions, que ce soit sur le mariage gay, je vous rappelle que c'est justement Cameron qui avait fait voter cette loi sur le mariage gay.
Premier ministre conservateur.
Voilà, en 2013. Donc toutes ces positions là-dessus sont quand même assez minoritaires. Et puis, ce qui est assez ironique, c'est que c'est justement là, en avril dernier, très récemment, qu'il a été renvoyé du gouvernement conservateur, où il était, pour lequel il était conseiller, non rémunéré, pour une commission sur le logement, Building Better, Building Beautiful, et il a été renvoyé pour propos islamophobes et antisémites. Ça a été une énorme controverse dans la presse, et on a l'impression qu'en France, c'est justement le moment qu'on a choisi pour s'en servir de référent sur le conservatisme. Donc, c'est assez ironique, oui.
Dans 28 minutes, au micro de Renaud Dely sur Arte l'an passé.
J'ai été dérangé en voyant dans les rues en bas ces jeunes qui, ces voyous.
Vous n'avez pas eu envie de descendre dans la rue, fermer 60
ans ? Enfin, j'avais envie de descendre dans la rue pour protéger les pauvres petits policiers qui étaient si attaqués. C'était les seuls membres de la classe ouvrière qu'on voyait de ma fenêtre.
Alors vous, Roger Scruton, vous vous définissez comme conservateur.
Oui.
Et notamment, vous faites une distinction entre le mot conservateur et le mot libéral. Vous êtes oui. Anti-libéral. Pourquoi ? C'est quoi la différence entre conservateur et libéral ?
Oui, enfin, il y a un côté libéral dans ma pensée, c'est-à-dire que je crois au marché libre, je crois aux des institutions libres, des initiatives personnelles, etc. Mais je crois aussi qu'il faut conserver un héritage institutionnel et de droit.
Des mœurs, des mœurs, coutumes, des traditions.
Et aussi, je crois que la France, surtout, a perdu beaucoup en perdant sa religion, parce que ça remplit les institutions avec un esprit commun qui unit les gens ordinaires et les gens critiques.
Alors, je reprends votre question perpétuelle, Clarisse Berthézen. Conserver quoi ? Partisan de l'Église anglicane et de son rôle, partisan du mariage traditionnel, parce que c'est dans des formes comme celle-ci que l'individu peut se construire. Roger Scruton est assez peu libéral, en matière de mœurs en tout cas, et même en matière économique.
Oui, alors le conservatisme est évidemment pluriel, il y a nombreux mouvements à l'intérieur, au sein même du conservatisme, et Roger Scruton, effectivement, n'en est qu'une instance, qu'une représentation. Il me semble que, dans l'ensemble, c'est un parti qui... pour qui l'Église est importante, l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, mais moins de manière, plus comme un ciment de la société. C'est une Église qui, depuis toujours, dans laquelle les prêtres peuvent se marier. Il y a des prêtres femmes. Récemment, il y a eu tout un débat, mais il y a quand même de fait plusieurs prêtres mariés homosexuels. Donc, on est quand même dans une Église tout à fait différente de celle que, enfin, de d'autres Églises. Donc il me semble que là-dessus...
Le conservatisme est dans la litote.
Tout à fait. donc je ne suis pas sûre que Scruton soit particulièrement représentatif de ça. Et au contraire, même par exemple sur l'avortement, sur toutes ces questions d'avortement, sous Thatcher, il y avait eu un débat au Parlement sur le fait de savoir s'il fallait... que l'avortement puisse être autorisé à 24 ou 28 semaines, et on était revenu surtout à 20 semaines. Enfin, c'était toute une question, et ça avait été... mais il n'a jamais été question, par exemple, de remettre en cause l'avortement. C'était vraiment une question de semaines.
Quand on voit l'interprétation que font ceux qui se nomment maintenant conservateurs en France, du conservatisme britannique, on a l'impression qu'ils le confondent avec réactionnaire.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a un malentendu, en tout cas sur ce terme qui est peut-être plus compliqué ailleurs qu'en Grande-Bretagne, puisqu'en Grande-Bretagne, il est quand même incarné aussi dans un parti. Donc mais oui, il me semble que en Grande-Bretagne, le mot conservatisme se distingue de la réaction en ce que justement il y a cette réflexion sur le changement, et puis il y a eu toute une réflexion sur le libéralisme et le conservatisme et la manière justement de dialoguer et d'associer les deux. Tout ce qui est droite religieuse, tout ce qui est mouvement contre l'avortement, etc., est vraiment extrêmement minoritaire. Ça ne fait pas du tout partie de ce qu'on appelle communément le conservatisme.
Mais un mouvement réactionnaire qu'on qualifie peut-être un peu trop tôt d'extrême droite, le Parti pour le Brexit, a le vent en poupe. Est-ce que le Parti conservateur peut servir de mur de protection? C'est sa responsabilité historique?
Historiquement, c'est sa responsabilité, en effet. C'est ce qui s'est passé notamment dans les années 20 et dans les années 30.
Où il y avait déjà eu des tentatives de construire des courants
d'extrême droite. Il y avait même un BUF, un parti fasciste, la British Union of Fascists. Il y avait des partis qui prenaient un retour au féodalisme, enfin des petites mouvances pour le féodalisme, etc. Donc, il semble que le parti conservateur, depuis plusieurs années maintenant, soit en réalité dépassé par ses avatars, notamment à son extrême droite, à sa droite, et qu'ils connaissent énormément de difficultés à jouer ce rôle. J'ai l'impression aussi que les historiens, peut-être, et notamment les historiens étrangers, donc je fais partie, n'ont peut-être pas joué leur rôle de critique
de l'utilisation des données historiques pendant la campagne du Brexit.
Tout à fait. Je trouve que depuis 45, il y a un consensus sur l'histoire de la Grande-Bretagne qu'on n'a pas vraiment questionné et qui a été très mal utilisé dans la bataille du Brexit.
Merci Clarisse Berthézen. L'un de vos livres collectifs aux éditions de l'EHESS et l'autre sous votre responsabilité, le grand mot, aux presses de Sciences Po, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard pour la préparation, Patrick Henry à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.